السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا on cette soirée du samedi 22 Rabi al-Awwal 1437 de l'Hijr, c'est-à-dire le 2 décembre 2016 bi'idhnillahi ta'ala. Donc c'est le cours numéro 36 bi'idhnillahi ta'ala. Afwan Fawzi, je crois que c'est le 2 janvier. Wallahu a'lam. Reprenez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est le 2 janvier. Voyez, ça d'un côté. De l'autre, est-ce que le son est bon ou il n'est pas bon? Est-ce que le son est bon ou il n'est pas bon? Est-ce que vous entendez normalement ou loin? Les pensées sont une porte au péché. Les pensées sont une porte au péché. Le Qayyim alayhi rahmatullah ta'ala a dit, concernant les pensées, leur cas est plus dur encore, car elles sont la base du bien et du mal. C'est d'elles que naissent les volontés, préoccupations et déterminations. Celui qui porte considération à ses pensées détiendra les rênes de son âme et dominera ses passions. Quant à celui qui est dominé par ses pensées, il sera plus dominé encore par ses passions et son âme. Et celui qui néglige ses pensées, elles le mèneront de force à la perdition. Les pensées ne cessent de parvenir au cœur jusqu'à ce qu'il ait de vains espoirs. Les pensées ne cessent de parvenir au cœur jusqu'à ce qu'il ait, c'est-à-dire le cœur, de vains espoirs. Allah Ta'ala dit, وَالَّذِينَ كَفَرُوا سُورَةُ النُّورِ أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'on soit fait prendre pour de l'eau. Puis, lorsqu'il y parvient, il n'y trouve rien. Mais il trouve Allah Azza wa Jal qui lui rend compte de toutes ses actions, car Allah a fait rapidement le compte. Pour lequel, j'étais déconnecté. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Alhamdoulilah. Je disais, le kafir, il vit avec les pensées, c'est-à-dire les espoirs, c'est-à-dire les faux espoirs et espérances. Il a dit ici dans le verset, quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique, que la soif est miskine, il prend ça pour de l'eau. Et quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Mais il trouve Allah Azza wa Jalla qui lui règle son compte en entier. Donc le kafir, il va croire maintenant que il y a ce qu'il devait faire et que...
Donc pour ceux qui nous écoutent via la radio, et sur Paltak, Cheikh a une déconnexion, donc on attend son retour, Inch'Allah. Barakallahu fikoum.
Taïeb, encore une fois, salam alaikum, est-ce que vous m'entendez sur le Bailux? Naam. Donc c'est la deuxième fois que je me déconnecte. Si ça arrive la troisième fois, je quitte le Bailux, je fais directement le cours sur Paltak. Taïeb. Je dis, et c'est vous qui maintenant, vous allez faire le contraire, vous allez transmettre sur le Bailux si ça se ferme pas chez vous. Ibn al-Qayyim dit, rahmatullah, l'homme a la préoccupation la plus vile et l'âme la plus méprisable est celui qui, face aux réalités, se satisfait des fausses espérances, les attire à lui et s'empare. Non. Je répète, c'est important. C'est très important même. L'homme, celui qui a la préoccupation la plus vile et l'âme la plus méprisable, c'est qui? C'est celui qui, face aux réalités, soit fait fausse espérance. Les attire vers lui, il attire les fausses espérances, et s'empare, il va pas d'espérance. Et par un capital des ruinés. La marchandise des espérances, la subsistance de l'âme vide, qui se satisfait de l'imagination, plutôt que d'arriver au but, et des fausses espérances, plutôt que des réalités. Comme l'a dit le poète, il a dit, un soir qui, s'il s'avère réel, est le meilleur des espoirs. Sinon, nous avons vécu un moment de bon. S'avère réel, c'est le meilleur des espoirs. Sinon, nous avons vécu un moment de bonheur en cela. Les pensées sont les choses les plus nuisibles pour l'homme. Elles font naître l'abattement, la paresse, la négligence, le remords et le regret. Lorsque celui qui fonde de faux espoirs manque une chose de la réalité tangible, il transforme sa représentation en son cœur, l'embrasse et l'intègre. Ainsi, il se satisfait d'être parvenu à une représentation irréelle et imaginaire que son esprit s'est représenté. Cela ne lui octroie rien, mais il est semblable à l'affamé et à l'assoiffé qui construit dans son imaginaire la représentation de la nourriture et de la boisson, alors qu'il n'en mange pas et n'en boit pas. Le fait de s'en satisfaire indique la médiocrité et la bassesse de l'âme, car l'honneur de l'âme, sa pureté et son élévation consistent à rejeter toute pensée qui n'a aucune réalité, ne pas vouloir y occuper son esprit et s'y accoutumer. Donc je répète, les pensées sont les plus nuisibles pour l'homme. Elles font naître l'abattement, la paresse, la négligence, le remords et le regret. Alaykoum salam. Lorsque celui qui fonde de faux espoirs manque une chose de la réalité tangible, il transforme sa représentation en son cœur, l'embrasse et l'intègre. Ainsi, il se satisfait d'être parvenu à une représentation irréelle et imaginaire que son esprit s'est représenté. Cela ne lui donne rien, mais il est semblable à l'affamé et la soifée qui construit dans son imaginaire la représentation de la nourriture et de la boisson, alors qu'il n'en mange pas et n'en boit pas. Donc il vit avec les rêves et quoi? Et les imaginations. Le fait de s'en satisfaire indique la médiocrité et la bassesse de l'âme. Car l'honneur de l'âme, sa pureté et son élévation consistent à rejeter toute pensée qui n'a aucune réalité. Ne pas vouloir y occuper son esprit et s'y accoutumer. Non. Quelqu'un, yani, qui vit seulement avec les pensées et les espoirs, il dit, tu vas rendre ton âme, tu vas l'avilir. Non. Mais il faut vivre avec la réalité. Pas avec quoi? Pas avec de faux espoirs. Ceci dit, les pensées sont de plusieurs types qui gravitent autour de quatre fondements. Les pensées sont de plusieurs types. Mais on peut dire qu'elles gravitent autour de quatre fondements. Premièrement, des pensées qui permettent de parvenir à un intérêt mondain. Deuxièmement, des pensées qui repoussent un méfait mondain. Troisièmement, des pensées qui permettent de parvenir à un intérêt dans l'au-delà. Quatrièmement, des pensées qui repoussent un méfait dans l'au-delà. Donc c'est classé comme ça. Non, elles sont de quatre types. Premier type, des pensées qui permettent de parvenir à un intérêt dans ce bas monde. Deuxième type, des pensées qui repoussent un mal dans ce bas monde. Troisième type, des pensées qui permettent de parvenir à un intérêt dans l'au-delà. Quatrième type, des pensées qui repoussent un méfait et un mal dans l'au-delà. Que le serviteur, d'Ibn Qayyim al-Rahmatullah, que le serviteur circonscrive ses pensées, réflexions et préoccupations à ces quatre types. Si elle se limite à cela, il n'abandonnera pas à autrui ce qu'il peut en rassembler. Si elle se bouscule en raison du grand nombre de leurs liens connexes, il donnera priorité à ce qui est le plus important dont il craint la disparition. Et il retardera ce qui n'est pas important et qu'il ne craint pas de voir disparaître. Je répète que le serviteur donc d'Ibn al-Qayyim circonscrive ses pensées, réflexions et préoccupations à ces quatre types, qui ne sortent pas de ces quatre types. Maintenant, si elle se limite à cela, il ne va pas abandonner à autrui ce qu'il peut en rassembler. Non. Des pensées qui permettent de parvenir à un intérêt mondain, c'est bien. Des pensées qui repoussent un mondain, bien. Des pensées qui permettent bien, alhamdoulilah. Je continue. Donc, il dit, si elle se limite à cela, donc il n'abandonnera pas à autrui, n'abandonnera pas à autrui ce qu'il peut en rassembler. Non. Si elle se bouscule maintenant dans les pensées qu'on vient de citer, si elle se bouscule en raison du grand nombre de leurs liens connexes, alors il doit donner priorité à ce qui est le plus important, dont il craint la disparition. Et il va ajourner ce qui n'est pas important et qui ne craint pas de voir disparaître. Vous avez compris? S'il y a jamais maintenant une bouscule à dépenser, au point où on doit choisir, alors on va choisir quoi? On va choisir ce qui est le plus important. Et dont on craint la disparition. La disparition, c'est-à-dire, des fois c'est quelque chose de très important, mais qui ne disparaît pas. Et il y a quelque chose aussi de très important qui risque de disparaître. Je commence par ce qui risque de disparaître. Ce qui ne disparaît pas, je le laisse de côté. Naam, je donne priorité à ce qui disparaît, par exemple. Naam, s'ils sont à pied d'égalité. Et il retardera ce qui n'est pas important. Quant à ce qui n'est pas important, on le retarde. Surtout, c'est du genre qui, on ne craint pas de le voir disparaître. Il reste deux autres catégories. La première concerne ce qui est important, mais ne disparaît pas. Important, mais ça ne disparaît pas. Et la deuxième, ce qui n'est pas important, mais disparaît. Voilà où ça commence à être un peu difficile. Quand on a deux choses qui se bousculent, on ne sait pas quoi choisir entre les deux. C'est quoi ces deux choses? On a quelque chose d'important et qui ne disparaît pas. Et on a autre chose qui n'est pas important, mais qui disparaît. Donc, est-ce qu'on va commencer par ce qui est important? Non. Donc, on va perdre ce qui n'est pas important car ça disparaît. Ou alors, on commence par ce qui n'est pas important. Non. Mais disparaît. Et dans ce cas, on a délaissé ce qui est plus important. Ibn Qayyim dit, chacune comporte ce qui appelle à lui donner priorité. Mais c'est là que survient l'hésitation et l'incertitude. Car si on donne priorité à ce qui est important, on peut craindre la disparition de ce qui est moindre, de ce qui est moindre. Et si on donne priorité à ce qui est moindre, on manque de se préoccuper de ce qui est plus important. Ceci lorsque deux choses se présentent qu'on ne peut pas les rassembler et qu'on ne peut pas parvenir à l'une qu'en manquant à l'autre. C'est le cadre de l'utilisation de la raison, la compréhension et la connaissance. Et c'est à partir de là qu'on s'élève. Réussi ou peur. La plupart de ceux que l'on voit révéler leur raison et connaissance donnent priorité à ce qui n'est pas important et ne disparaît pas sur ce qui est important et disparaît. Personne n'échappe à cela, mais les uns sont plus touchés que d'autres. Il a dit, la plupart de ceux que l'on voit révéler leur raison et connaissance, qu'est-ce qu'ils donnent? Ils donnent priorité à ce qui n'est pas important et ne disparaît pas. Subhanallah al-Adim. Sur ce qui est important, il disparaît. Il a dit que personne n'échappe à cela, mais les uns sont plus touchés que d'autres. Donc, Yadou, ce sont ceux qui révèrent et année donnent prééminence à leur raison et connaissance. Donc, ils donnent priorité à ce qui n'est pas important d'un côté et de l'autre qui ne disparaît pas. Et là, la dispose de ce sujet revient au grand principe autour duquel gravitent la législation et la prédestination. Et vers lequel revient la création et l'ordre. Non. Qui consiste à donner priorité au plus grand et au plus élevé des deux intérêts. Il manque d'intérêt moindre. Et de ne tomber que dans le moindre des deux méfaits, afin de repousser le plus grand. Ainsi, on délaisse un intérêt pour en réaliser un autre plus grand, et on tombe dans un méfait pour en repousser un autre plus grave. voilà, comme on dit en arabe, tizam, c'est-à-dire, on dit en arabe, إذا تعارض مفسدتين يعني ندفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما ندفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما. Ici il dit, il a résumé la phrase, il a dit ainsi on délaisse un intérêt. Pourquoi je le délaisse? Pour en réaliser un autre plus grand. Naam. Et ainsi je fais un méfait. Naam. Pourquoi? Pour en repousser un autre plus grave. Les pensées et la réflexion de l'homme sensé ne dépassent pas cela. C'est ce qu'ont apporté les législations. Et on ne peut atteindre les bienfaits de cette vie et de l'au-delà qu'ainsi. C'est-à-dire, ici dans ce bas monde, il n'y a pas, c'est à 100% halal, par exemple, 100% haram. Naam. C'est mélangé. Alors, maintenant, tu choisis. Naam. Qu'est-ce que tu dois faire? Celui-là, si tu le fais, c'est très important, mais il contient un méfait. Et l'autre, il paraît pas important, mais il contient de grands bienfaits. Alors, la personne, des fois, hésite, se trouve entre les deux, mais ne sait plus à quoi donner priorité. Et ça, ça demande beaucoup de haine. Naam, de hikmah, de sagesse. Naam. Il dit ici, la plus élevée, noble et bénéfique des réflexions concerne ce qui se rapporte à Allah Azza wa Jalla et l'au-delà. Ce qui concerne Allah Ta'ala est de plusieurs types. Premier type. Le premier concerne la réflexion sur ses versets. Naam. Maintenant, il est en train le cours d'aujourd'hui, c'est sur les pensées. Les pensées sont une sorte de péché. Il est en train de parler maintenant des pensées qui ont rapport avec la charia. Il va dire qu'elles sont de plusieurs types. La première concerne la réflexion sur ces versets et ce qui s'y rapporte. Et la compréhension de ce qu'ils visent à travers eux. C'est pour cette raison qu'Allah les a révélés. Non uniquement pour les réciter, mais la récitation n'est qu'un moyen de parvenir à la compréhension. Un pieux prédécesseur a dit, autrefois il a dit, Allah a révélé le Coran afin qu'on le mette en pratique. Et les gens ont fait de sa récitation sa mise en pratique. Naam. Donc, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, les pensées et la réflexion, la meilleure des choses c'est quoi? C'est, yani, comme il dit ici, la réflexion sur ces versets, la révéler et ce qui s'y apporte. La réflexion sur ces versets et ce qui s'y rapporte. C'est premier type. Deuxième type. Ça concerne la réflexion sur ces signes visibles, leur considération et leur utilisation comme preuve de ses noms, ses attributs, sa sagesse, sa bienfaisance, sa bonté, son existence. Allah a désigné spécifiquement ses serviteurs comme étant ceux qui réfléchissent et médite sur ses signes et leurs conséquences, et il a blâmé ceux qui s'en détournent. Ça, c'est le deuxième type. Il y en a cinq. Le deuxième, c'est quoi? Le deuxième, c'est la réflexion sur ses signes visibles. La réflexion sur les cieux. Naam, il faut réécrire ça, ça. Pour résumer, premier type concerne réflexion sur ses versets, révéler ce qui s'y rapporte. Deuxième type. Réflexion sur ses signes visibles. Réflexion sur ces signes visibles. Donc le premier type, quelqu'un qui réfléchit et médite le Coran et ce qui s'y rapporte. Médite aussi la Sunna et ce qui s'y rapporte. Ça c'est le meilleur des personnes. Et c'est les meilleures pensées qu'on puisse avoir. Il n'y a pas de meilleure pensée qu'on puisse avoir que avoir les pensées sur le Coran et la Sunna et ce qui a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, et sa sharia. Deuxième type, avoir des pensées sur ses signes visibles. Ses montagnes, ses cieux, sa mer, sa terre, les animaux qu'il a créés, les arbres. Naam, en mettant la relation avec quoi? Comme preuve, ce sont des preuves, ces créatures sont des preuves de ses noms, ses attributs, sa sagesse, sa bienfaisance, sa bonté, son existence. Naam, quand je contemple, je médite une fleur, dis pas c'est une fleur parce que bon, elle est belle, ça s'arrête là. Non, premièrement, c'est une preuve que Allah Ta'ala existe. Sinon, comment cette fleur serait venue avec toute cette couleur, cette beauté, ce beau parfum? Le coquelicot, comme ça, rouge, très beau. Ah, c'est pas possible que quelqu'un, yani, ça soit lui qui le crée. C'est pas possible. Donc, c'est la preuve de l'existence d'Allah. Sa sagesse. Sa sagesse. Sa bienfaisance. Il aurait pu ne pas nous créer de ces choses-là. Il te crée juste ce qui te donne à manger et boire. Te crée pour que tu les vois, etc. C'est pas obligé pour lui. Non. Sa bonté. Et comme ça. Donc, deuxième type de réflexion sur ces signes visibles, mais toutefois, en attachant cela avec, en les mettant en preuve de ses noms, ses attributs, sa sagesse, etc. Pourquoi on a dit ça? Sinon, il n'y a pas de différence entre nous et les kofars. Les kofars méditent plus que nous sur les beautés et les choses belles. Le kafir médite plus que peut-être le croyant sur la chose. Il dit comme elle est belle cette fleur, comme elle a une belle odeur, comme ceci, regarde les pétales, regarde ceci, regarde cela, il commence à la filmer, il va à la maison, il va leur montrer, etc. Mais, la grande différence, nous, on lit ça, lit du verbe lier, on lit ça avec, comme quoi c'est une preuve, hein, de l'existence d'Allah, ses attributs, sa sagesse, sa bienfaisance, sa bonté, et comme ça. Tayyib. Troisième type, qui sont bien sûr. La réflexion sur ses dons, sa bienfaisance, ses différentes formes de bienfaits, l'étendue de sa miséricorde, son pardon et sa clémence. Ces trois types de réflexion tirent du cœur la connaissance, l'amour, la crainte et l'espoir en Allah. La permanence de la réflexion en cela plonge totalement le cœur dans la connaissance et l'amour. Troisième type, qui est bien et qui est demandé à ce que le croyant ait cela, dans ses pensées, c'est quoi? Ce sont les pensées qui concernent la réflexion sur ses dons, ce que Allah Ta'ala nous a donné. Naam, Allah Azza wa Jalla, ce qu'il nous a donné, sans qu'il y ait quelque chose en revanche. Naam, il te donne ça. Là, sur sa bienfaisance, Allah Ta'ala, sa bienfaisance, ces différentes formes de bienfaits, les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, si on va les compter, personne ne peut les compter, l'étendue de sa rahma, son pardon quand on fait des fautes, sa clémence, là, quand on revient vers lui, et comme ça, là, celui qui a des genres de pensées, comme ça, c'est Masha'Allah, il a dit, ces trois types de réflexions qu'on vient de citer maintenant tirent du cœur la connaissance, l'amour, la crainte et l'espoir en Allah Azza wa Jalla. Et la permanence de la réflexion en cela, si une personne n'arrête pas de penser en cela, ça plonge totalement le cœur dans la connaissance d'Allah Azza wa Jalla et son amour. Non. Compare avec... On va comparer quelqu'un qui a ces trois types de pensées avec quelqu'un qui ne pense du matin au soir qu'aux choses qui ne sont pas bien. Et qu'à la zina et les films sales. Voilà ce qu'il pense du matin au soir. Et comment boire l'alcool et comment s'amuser, comment jouer. Non. Et tu verras la différence entre ces deux personnes. La quatrième sorte, qui bien est demandée aussi, concerne la réflexion sur les vices et imperfections de l'âme et de la pratique. Ça c'est bien aussi. De méditer sur les vices et les maladies et les imperfections de notre âme et de la pratique. N'âme. Yani, tous les défauts qu'on fait dans la salat, dans la zakat, dans le siyam, dans ceci, dans cela. Non. Insan, il s'assoit et commence à méditer sur les vices qu'il a, yani les imperfections de son âme et des choses qu'il fait en pratique. Non, que, yani, il ne fait pas vraiment les choses comme elles doivent être faites. Cette réflexion est d'un bénéfice éminent. Pourquoi ? Elle est la porte de tout bien. Et elle agit sur le fait de briser l'âme incitatrice au mal. Non ? Et lorsqu'elle est brisée, l'âme apaisée peut vivre, s'épanouir et dominer. Ainsi, le cœur vit son royaume et il envoie ses émirs et armées vers ce qui comporte son intérêt. Non. Tout cela pourquoi ? Parce que la personne a médité et a reconnu avoir des vices et des imperfections dans son âme et dans ce qu'elle fait, yani comme pratique, yani de tous les jours. Ça donne de grands biens. Ça donne de grands biens et c'est la porte de tout bien et ça permet de briser l'âme incitatrice au mal. Et cette âme, si elle est brisée, alors l'âme apaisée peut vivre, s'épanouir et dominer. Ainsi, le cœur vit. Il vit la vraie vie. Cinquième et dernière, ce qui est demandé aussi, concerne la réflexion sur l'obligation et la fonction du moment présent. Je répète, la réflexion sur l'obligation et la fonction du moment présent. Et la concentration sur cela. Donc, ça concerne la réflexion sur l'obligation et la fonction du moment présent. En ce moment même, en ce moment, je me dis par exemple, maintenant il est 21h. Chez nous, il est 21h10. En ce moment, 21h10, quelle est l'obligation et la fonction de ce moment. Qu'est-ce que je dois faire en ce moment? Est-ce qu'il y a des adhkars que je dois faire, ou bien des prières, ou bien une sorte des récitations, ou bien des lectures, ou bien des audios que je dois écouter? C'est quoi? Il y a une obligation. Non. Donc, quelle est l'obligation de ce moment? Il dit ici, l'homme doué de connaissance et celui qui vit avec son temps. Et s'il le perd, il perd tout ce qui comporte son intérêt. Car tous les bienfaits naissent du temps. Si on le perd, on ne peut le rattraper. Chef et a dit, rahimahullah, j'ai fréquenté les mystiques, les soufis, et je n'ai rien tiré d'eux. Si ce n'est deux paroles. La première, le temps est une épée. Si tu le coupes pas, soit tu l'occupes, soit il te tranche. Soit tu l'occupes, soit il te tranche. Et d'autres, ils disent, soit tu le coupes. Et il mentionne ensuite l'autre parole qui est, si tu n'occupes pas ton âme dans la vérité, elle t'occupe dans le faux. Âme, c'est vrai. Ton âme, si tu ne l'occupes pas dans la vérité, elle va t'occuper dans le faux. Choisis. Âme, tu peux pas être au milieu. Âme. Ou bien c'est toi qui l'occupe et la force dans la vérité et à sa recherche et à sa pratique, ou bien elle, si tu vas la délaisser, elle va t'occuper dans le faux et ce qui est ta perdition. Le temps de l'homme est en réalité son existence. Il est la substance de sa vie éternelle dans les bienfaits permanents ou la substance de sa vie misérable dans le châtiment éternel. Yom al-Qiyama. Vous savez que toute personne doit passer par 5 questions. Entre autres, on va lui demander aussi qu'est-ce qu'il a fait de sa jeunesse. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait de son temps. Qu'est-ce qu'il a fait de son temps. Qu'est-ce que tu faisais tout le temps. Le temps que Allah Ta'ala t'a donné, qu'est-ce que tu as fait avec. Donc, et son au-delà. Ibn Qayyim dit, il passe plus vite que les nuages. Il passe, le temps passe plus vite que les nuages. Ainsi, son Allah et en Allah constitue sa vie et son existence. Alors que ce qui est autre n'est pas compté dans sa vie. Et s'il y vit, c'est à la manière du bétail. Si quelqu'un vit 30, 40, 50, 60 ans, et pendant toutes ces années, ces longues années, n'a pas adoré le Créateur, n'a pas prié, n'a pas jeûné, n'a pas lu le Coran, n'a pas prié une seule prière, n'a pas fait une seule prosternation, n'a jamais jeûné. Non. jamais jeûné, n'a fait que le haram du matin au soir. Alors celui, qu'est-ce qu'on va dire de lui? On va dire, son temps dans sa vie n'a pas été compté. Et il a vu, c'est-à-dire dans cette vie, il a vécu à la manière du bétail. Car le bétail fait comme lui, mange, boit, dort et assouvit ses passions. Il n'y a aucun, alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous ait guidé à cela. Alhamdulillah, yani, traduction rapprochée. On ne serait jamais guidé si ce n'est pas Allah Azza wa Jalla qui nous a guidé. Donc le sahabi a dit presque la même chose. Allahumma lawla Allah mahtadina. Si ce n'était pas Allah Azza wa Jalla, on n'aurait pas été guidé. Et ni on aurait fait l'aumône et ni on aurait prié. C'est Allah Ta'ala qui nous a guidés. Donc maintenant que Allah Ta'ala nous a guidés, attention, attention que tu crois que c'est parce que tu mérites cela. Tu dis bien sûr, moi, comment, moi Allah Ta'ala me guide pas. Moi je suis bien et Allah Ta'ala sait que je suis bien dans mon cœur, il sait que je suis quelqu'un qui aime le bien, fait le bien, etc. Et tu rentres dans ce qu'on appelle le men. Le men, c'est-à-dire, on va faire des rappels à Allah Ta'ala. Astaghfirullah Ta'ala. Naam. Mais au contraire, il faut quoi? Il faut faire beaucoup de doigts pour qu'il te prenne pas ce qu'il t'a donné. Il t'a donné la meilleure des choses. Il n'y a pas meilleur que ça. La preuve. Si maintenant, il y a un milliardaire qui va te contacter, il va te dire, écoute, je vais te donner 2 ou 3 milliards de dollars. Mais, yani, voilà, tu arrêtes la prière et, yani, à vie, hein, tu signes un contrat ici que à vie, tu ne vas pas prier jusqu'à mourir. C'est un exemple. Naam. Si c'est une fille, femme, il lui dit aussi, tu enlèves le voile, naam, tu restes comme ça avec la mini-jupe et arrête la prière jusqu'à mourir. Mais je vais te donner 3 milliards de dollars. Naam. Il est possible qu'il y en ait quelques-uns qui acceptent. Mais celui qui accepte n'a pas estimé Allah Azza wa Jalla sa juste valeur. Ne sait pas c'est quoi l'islam. Ne sait pas c'est quoi la salat. Ne sait pas c'est quoi la ni'ma de l'islam. Ne sait pas, il n'a pas la conviction de l'au-delà. Et ce qui attend là-bas comme châtiment pour celui qui a accepté ça. Et ce qui attend là-bas comme rétribution, une bonne rétribution pour celui qui n'a pas accepté ce pacte, qui a dit non, moi je prends pas d'argent, même des milliards. Moi, il n'y a pas meilleur que les milliards que Allah Ta'ala m'a donné dans le fait de m'avoir guidé. Guidé, être guidé par Allah. Et je fais la prière et je fais ce que je peux comme ibadat, ça vaut des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Naam. Yani, toi qui ne prie pas, qui là, tu es devant moi le plus pauvre des pauvres. C'est moi le riche, c'est pas toi. Riche par Allah, riche avec Allah. Non, riche par Allah Azza wa Jal et avec lui. Naam. Toi, tu ne connais pas Allah subhanahu Azza wa Jal, tu l'as jamais adoré. C'est toi le plus pauvre, c'est toi le plus grand perdant. C'est toi le plus grand perdant. Al-Muhim. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, on parle du temps, celui qui perd son temps. Celui qui perd son temps. Allah Ta'ala t'a donné, je ne sais combien d'années, tu les as perdues dans le vide. Parce que tu vas le rencontrer, rien avec toi. On appelle ça le viatique. Qu'est-ce que tu as pris comme provision? Quand on voyage, on prend les provisions quand on voyage. On prend avec soi beaucoup de choses. Pour boire au cours de route, pour manger, on prend, on va vérifier la route secours. Peut-être on va crever, on vérifie la route secours. Si elle n'est pas elle-même crevée. Donc, on fait des calculs. Donc toi maintenant, tu sais qu'il y a une rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui va arriver tôt ou tard. Ni piston, ni ministre, ni général, ni ne peut retarder cette rencontre. Alors comment qu'il peut l'annuler? Et malgré tout cela, tu te prépares pas. Tu laisses yani le temps passer comme ça dans le vide. Il passe. Des jours, des mois, des années. Des années que j'ai pas prié, des années que j'ai pas jeûné, des années que j'ai pas fait de bien, des années que je bois l'alcool, des années que je fais la zina, des années que je fais ceci, je fais cela. Quand est-ce que tu vas te réveiller? Quand est-ce que tu vas te réveiller? Tu vas te réveiller dans la tombe. À quoi ça te sert? À quoi ça te sert de te réveiller dans la tombe? Dans la tombe, tout le monde va se réveiller quand on va l'asseoir pour qu'il réponde aux questions. Tout le monde doit s'asseoir pour répondre aux questions, sauf ceux que le hadith a accepté, comme le ceux qui meurent le jeudi soir et ceux qui meurent le vendredi, comme ça, et le shahid, etc. Sinon, tout le monde va devoir répondre aux questions. Et là-bas, il va se réveiller, le grand réveil, c'est trop tard. Trop tard pour lui. Donc nous, alhamdoulillah, deux choses. La première, on est éveillé. Ni'ma. On n'a pas le voile sur les yeux et on est en train de dormir alors qu'on croit qu'on est réveillé. Il y a des wahda. Deuxième ni'ma, tu peux être réveillé et éveillé, mais tu te trouves noyé dans le coffre et noyé dans la perversité. Toi, tu es éveillé, alhamdoulillah, et tu es, masha'Allah, musulman, croyant, inshallah, salafi, talibouin, et comme ça. C'est une grande ni'ma. Il n'y a pas d'autre ni'ma après celle-là plus grande, sauf que rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et rentrer au paradis. Il dit ici, s'il passe son temps, si la personne passe son temps dans l'insouciance, les désirs, les fausses espérances et l'oisiveté, alors la mort est meilleure pour lui que la vie. Voilà. Comme on a dit tout à l'heure, si maintenant je vis pour passer mon temps dans l'insouciance, les fausses espérances, les désirs, les projets dans la tête, je fais ceci, je fais cela, alors il dit, la meilleure chose, et encore, la meilleure chose qu'il réalise, c'est l'oisiveté et le profond sommeil. Donc, dormir la moitié de la journée ou toute la journée. Alors il dit, la mort est meilleure pour cette personne que la vie. De la même manière que l'homme, dans la prière, n'obtient de sa prière que ce qu'il accomplit avec concentration, la même chose, il n'obtient de son existence que ce qui est pour Allah et en Allah. Naam. Tout ce qu'il y a dans cette vie, tout ce qui n'est pas pour Allah et en Allah, c'est de la perte. D'ailleurs, il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Albani a dit authentique ou bien bon. Rahimahullah ta'ala. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit الدنيا ملعونة وملعون كل ما فيها إلا ما كان لله أو ذكر الله أو ما والاه. Hadith authentique, à peu près ce sont ça ces termes. Il a dit, alayhi wa sallam, cette vie est maudite et tout ce qui s'y trouve est maudit, sauf ce qui est pour Allah Azza wa Jal, ou bien dhikr Allah, la mention d'Allah. Dans un autre hadith, il a dit, oh alim, ou bien savant, oh muta'allim, ou bien celui qui demande la science. À part ça, il a dit, toute autre chose, c'est maudit. Subhanallah al-Azim. Donc tout ce qui n'est pas pour Allah, c'est de la perdition, c'est de la perte. Il dit ici, ce qui est autre que ses pensées et réflexions est soit une insufflation du shaitan, soit une fausse espérance et une tromperie à la manière de ceux dont la raison est atteinte parmi les alcooliques, drogués et fous. Naam. Donc toute personne, tout ce qui est autre que ces pensées qu'on vient de citer, les cinq qu'on vient de citer, et soit une insufflation démoniaque, du démon, soit une fausse espérance, une tromperie. Tu vis avec les rêves et les espérances, naam, et demain tu vas trouver dans ta tombe, tu n'as rien fait. Tu n'as rien avancé pour ce jour. Tu as vécu avec les rêves. Naam. Il a dit exactement comme qui? Comme les alcooliques et les drogués. Et les fous. Le fou, à la rigueur, il est excusé. Et l'alcoolique et le drogué. L'alcoolique, naam, il vit dans les rêves. Il va boire, ensuite il va se croire qu'il est ceci, il a cela, il a des châteaux, il a. La même chose pour le drogué. Il va se remplir la tête, il va sentir qu'il est le meilleur des hommes, le plus riche, le plus beau, le plus fort. Ensuite, le matin, il se réveille, il n'a rien. Il trouve qu'il a vomi sur lui, qu'il a fait ses besoins sur lui, il a insulté les gens, il a insulté sa mère, il a dit des gros mots à son père, il a dit ceci, cela. Non. Ça, c'est dans la dunya quand il se réveille. Qu'en est-il quand il va se réveiller dans la tombe? Car il y a beaucoup de drogués, beaucoup de d'alcooliques qui sont morts. Ils sont morts en faisant la chose. Il a bu, ensuite il a fait un accident de voiture. Et l'autre, il s'est drogué, il est mort. Alors comment ils vont se réveiller dans la tombe comme ça? A'oudou billah, c'est pas une chose facile. Donc il me dit, la condition de ces gens, donc on vient de citer maintenant les alcooliques, les drogués, expriment lorsque les réalités sont dévoilées. Il a cité, yani ce qu'a dit le poète, si mon rang parmi vous lors du rassemblement sera celui que j'ai vécu, j'aurai perdu mes jours. En désespérance dont mon âme a joui un temps, mais que je vois aujourd'hui comme un amas de rêves. Je répète, si mon rang parmi vous, lors du rassemblement, sera celui que j'ai vécu, alors j'aurai perdu mes jours. Perdu mes jours, en désespérance, dont mon âme a joui un temps. Naam. Donc j'ai perdu mes jours, à quoi? En espérant des choses, seulement des espoirs, des faux espoirs. Dont mon âme a joui un temps. Dont mon âme a joui un temps. Mon âme a joui un certain temps. Mais je vois aujourd'hui, non, je les vois comme un amas de rêves. Sache, dit Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala, sache que la survenue d'une pensée n'est pas nuisible, mais ce qui nuit est uniquement de la provoquer et de l'exprimer. Écoutez, sache que la survenue d'une pensée n'est pas nuisible. Des fois, il y a une pensée qui vient à toi, et même cette pensée n'est pas bien. Mais c'est pas toi qui décidé qu'elle vienne, elle est venue toute seule. Il dit ce n'est pas nuisible, mais ce qui nuit, c'est quoi? C'est le fait de la provoquer et de l'exprimer. La pensée est semblable à celui qui marche sur la route et le laisse, il passera et s'éloignera de toi. Mais si tu l'appelles et qu'il t'ensorcelle par ses propos, ses illusions et sa tromperie, ce qui est la chose la plus aisée pouvant survenir à l'âme frivole et oisive, et la chose la plus lourde pouvant toucher le cœur et l'âme noble, sereine et attachée au divin. Donc la pensée, c'est un peu comme quelqu'un qui marche dans la rue. Quand tu marches dans la rue, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Il y a des centaines de gens qui marchent, à ta droite, à ta gauche, devant toi, derrière toi. C'est comme ça les pensées. Elles sont là, autour de ta tête, dans ta tête, elles tournent, mais c'est pas grave. Mais le problème c'est quoi? Maintenant, si quelqu'un, parmi les passants, si tu vas l'appeler, tu vas dire, comment ça va? Tu l'appelles. Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. Ah, maintenant ça commence à devenir grave. Surtout si cette personne, yani, n'est pas sur le droit chemin, etc. Et yani, ça va te poser vraiment de problèmes. Mais si tu n'avais pas interpellé la personne, tu l'avais laissé passer, elle t'aurait pas nui. Elle t'aurait pas nui. C'est la même chose pour la pensée. Elle passe comme ça dans sa tête, ta tête, et tu la laisses partir, et elle sort de ta tête. Encore des fois, tu t'aides, même tu dis, si c'est pas bien, tu dis, et elle te quitte. Mais si maintenant, tu commences, yani, à méditer sur cette pensée, et à rester une demi-heure à méditer sur cette pensée qui est mauvaise, elle va faire un point dans ton cœur, sur ton cœur. Elle va te chagriner. Elle va te faire perdre ta journée. Elle va te diminuer ta foi. Et ainsi de suite. Pourquoi? Tu l'as pas chassé. Non, tu l'as pas chassé. Tu l'as laissé. Et si tu la laisses encore davantage, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va même enfanter. Non. C'est comme une poule, tu la laisses, ensuite elle va commencer à donner des œufs. Ensuite les œufs vont donner les poussins. Non. C'est à peu près la même chose. Tu vas la laisser, elle va donner d'autres pensées. Non. Ensuite, vous savez que de la pensée, la personne va aller à la pratique. Allah Azza wa Jalla établit en l'homme deux âmes, une âme incitatrice au mal et une âme sereine. Elles s'opposent, et tout ce qui est léger pour l'une est lourd pour l'autre. Et tout ce qui provoque une jouissance chez l'une provoque une souffrance chez l'autre. Rien n'est plus dur pour l'âme incitatrice au mal que l'œuvre pour Allah. La priorité est donnée à sa satisfaction sur ses passions. Alors que rien ne lui est plus profitable, c'est-à-dire à l'âme incitatrice, rien ne lui est plus profitable et rien n'est plus dur pour l'âme sereine que l'œuvre pour Allah Azza wa Jal et la satisfaction des passions. Afwan. Que l'œuvre pour autre qu'Allah Azza wa Jal et la satisfaction des passions. Et rien ne lui est plus néfaste que cela. L'ange est avec l'une à la droite du cœur et le démon avec l'autre à la gauche du cœur. La guerre perdure et les armes se sont déposées et les armes ne sont déposées qu'au terme de l'existence en ce bas monde. Tout le faux prend le parti du démon et de l'âme incitatrice au mal. Et tout le bien prend le parti de l'ange et de l'âme sereine. La victoire va une fois à l'un et une fois à l'autre camp. Mais la victoire repose dans la patience. Ainsi, celui qui patiente, endure, reste vigilant et craint Allah, obtiendra une bonne fin en cette vie et dans l'au-delà. Donc c'est très important. Résumé, surtout la fin. Il a dit tout repose sur la patience. Car yani, l'âme incitatrice et l'âme sereine ne peuvent se rencontrer. Elles sont tout le temps en guerre. Tout ce qui fait jouir l'une, yani, fait du tort à l'autre. Elles ne peuvent pas les deux être contentes ou les deux être yani, pas bien. Non. Si l'une n'est pas bien, l'autre est bien. Si l'autre est bien, l'autre n'est pas bien. C'est toujours comme ça. Toujours en guerre et à l'opposé. Il dit ici, hein, la victoire va une fois à l'un et une fois à l'autre camp. Mais la victoire repose sur la patience. La patience. Ainsi, celui qui patiente, endure, reste vigilant et craint Allah. Il a ajouté craint Allah. Pourquoi? Car tu trouves beaucoup de gens qui patientent mais ne craignent pas Allah Azza wa Jal. On va prendre l'exemple de l'âne. L'âne, tu vas à la campagne, tu le trouves toute la journée attaché à un piquet de fer et sous le soleil toute la journée. Il patiente, mashallah. Mais est-ce que c'est pour Allah? Est-ce qu'il craint Allah? Non. Non. Et les kofars, vous trouvez à des gens qui sont vraiment malades et qui patientent. Et c'est kofar. Mais est-ce que c'est pour Allah? Est-ce qu'il craint Allah? Est-ce qu'il attend quelque chose d'Allah? Rien. Il a dit, celui qui patiente, endure, reste vigilant, craint Allah, obtiendra une bonne fin en cette vie et dans l'au-delà. C'est une ni'ma. C'est une ni'ma. Toute personne qui patiente et qui craint Allah aura une bonne fin en cette vie et dans l'au-delà. Moi, j'ajoute, c'est pas seulement aura une bonne fin, mais même sa vie elle-même sera une belle vie et une bonne vie. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Allah Ta'ala qui a dit dans le Coran. Men amila, il a dit, wa man yamil min salihati min dhakarin aw untha, wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Il a dit, tous à peu près celui qui fait de bonnes œuvres dans cette vie wa huwa mu'min tout en étant croyant falanuhyiyannahu hayatan tayyiba je lui ferai vivre une bonne vie. C'est pas moi qui dis, c'est Allah qui a dit ça. Qui fait de bonnes œuvres et croyant, deux conditions, je lui fais mener une bonne vie. Si quelqu'un dit, moi, je vois des millions de musulmans qui font les bonnes œuvres et sont croyants et ils ne mènent pas une bonne vie. Je dis, premièrement, comment es-tu sûr qu'ils font de bonnes œuvres? Non. Les bonnes œuvres doivent être, yani, émanent de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le verset. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Voilà. Qui a dit ça? Allah Ta'ala. Nahl 97. Est-ce que Allah Azza wa Jal, quand il dit une chose, est-ce que il annule cette chose? Ou bien il tient pas sa promesse? Jamais. Jamais, ça. Ni lui, ni son messager, alayhi salam. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Donc six mois, hein, je ne vis pas une bonne vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de deux choses l'une. Ou bien je ne suis pas croyant, ou alors je suis croyant, mais je ne fais pas de bonnes œuvres. Non, car Allah a mis deux conditions. Fais une bonne œuvre en étant croyant. Résultat, nous lui ferons vivre une bonne vie. Si tu vois que tu ne vis pas une bonne vie, médite. Ou bien c'est la croyance qui te manque. Alhamdulillah, on pense qu'on est croyant, Inch'Allah. Naam. Ou alors quoi? On ne fait pas de bonnes œuvres. On ne fait pas de bonnes œuvres. Il dit ici, Allah Azza wa Jalla établit une règle qui ne modifiera jamais. La bonne fin réside dans la piété. Et la bonne fin appartient aux pieux. Et qui ne sera jamais modifiée. C'est quoi? La bonne fin réside dans la piété. Et la bonne fin appartient aux pieux. La bonne fin appartient à qui? Aux pieux. Je dis à toute personne qui est pieuse, n'aie pas peur, même, de la mauvaise fin. C'est-à-dire, n'aie pas peur que tu aies une mauvaise fin, car tu n'auras pas de mauvaise fin. Si tu as été pieux dans cette vie, naam, tu l'as fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, naam, te donnera une bonne fin. Ça c'est avant de le rencontrer. Il te donnera deux choses. Une bonne vie et une bonne fin, les deux. Une bonne vie et une bonne fin, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Il a dit, et la bonne fin appartient aux pieux. La bonne fin appartient aux pieux. Déjà, le fait de mourir après avoir fait ses prières, mashallah, ou en état de jeûne, ou en état de, en train de dire le Coran, ou en allant vers la mosquée, ou en allant rendre visite à des parents ou bien de la famille, et on meurt en cours de route, c'est déjà un délit d'une bonne fin. Délit d'une bonne fin. C'est pour ça, moi, à chaque fois qu'on me dit une personne est morte, une personne est morte, même si je ne la connais pas, je demande deux choses. Je dis, quel âge a-t-elle? On me dit, par exemple, 35 ans, 40, par exemple, 22. Comme ça fait une semaine, un voisin s'est jeté du 9e étage. Quel âge? 29 ans à peu près. Qaddar Allahumma shafa'a, qaddar Allahumma shafa'a. Naam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je disais, à chaque fois qu'on me dit quelqu'un est mort, même si je le connais pas, je demande la première des choses. C'est quoi l'âge? Si je me dis quoi? Je dis, regarde, cette personne, elle est morte à 30 ans. Et moi maintenant, je tourne dans les 63. Donc, subhanallah l'azim. Pourquoi je suis pas mort, moi, à 30 ans, comme lui? J'ai vécu encore après lui. Donc, ça, c'est une ni'ma, alhamdulillah. Et la deuxième des choses, je demande, est-ce qu'il priait? La moindre des choses, est-ce qu'il priait? S'il faisait autre chose, on ne peut pas avoir. S'il jeûnait, jeûnait pas, c'est difficile. Est-ce qu'il priait? Donc, s'il dit il ne prie pas, c'est pas la peine de demander est-ce qu'il jeûnait ou pas. Il ne prie pas, akhlas, faut pas beaucoup espérer. Non. Mais s'il dit il prie, même s'il faisait d'autres choses là, moi, alhamdoulilah, il priait. Alhamdoulilah. Car rencontrer Allah Azza wa Jalla sans prière, comme a dit Omar al-Khattab, la halla liman lam yusalli fi l'islam. La halla fi l'islam liman lam yusalli. Celui qui ne prie pas en islam n'a pas de chance, n'a rien. Ni place, ni rien. Naam. Amin ya Rabbil Alamin. Donc, rencontrer Allah Ta'ala, sans prière. Allahu Akbar. Rencontrer Allah Ta'ala sans prière. C'est vraiment très grave. Très, très, très grave. Et pas plus grave. Rencontrer Allah Subhanahu wa Ta'ala sans prière. Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahullah Ta'ala dit, si quelqu'un meurt sans prière, il dit, pour le mettre, il dit, il faut le, l'envelopper dans un drap. Ensuite, il dit, creusez-lui une tombe, ne le lavez pas, le lavage mortuaire, ne priez pas sur lui, mettez-le dans un drap et cherchez un bâton, par exemple un balai, le manche à balai, poussez-le, roulez-le, après l'avoir enveloppé, il a dit, ne va pas le prendre avec tes mains, c'est quelqu'un de... C'est de la charogne. Naam. Ne te salis pas. Alors, prends un bâton et roule-le. Roule-le avec le pouce-le, roule-le jusqu'à ce qu'il tombe. Naam, qu'il tombe dans sa tombe. Ensuite, personne de sa famille ne l'héritera. Pourquoi? Parce que le musulman n'hérite pas le kafir. Sauf les kofars vont l'hériter. Tous les musulmans n'héritent pas de cette tombe qui est mort comme ça. Donc, imaginez celui-là, quand il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va lui dire, qu'est-ce qu'il va yani, donner comme preuve. Nulqiyim rahimahullah ta'ala dit, le cœur est une ardoise, le cœur. Avant de continuer, ça fait trois cours à peu près passés, je parlais de, franchement, des livres. J'ai dit, quand on termine ce livre, on va yani, continuer le Thalathat Usul et Sharh Sunnah. Ensuite, une personne m'a écrit ce jour-là et a dit que, yani, peut-être de préférence, livre par livre, livre par livre. Non. Ensuite, moi, j'ai pas donné beaucoup d'importance à cette phrase. Ensuite, quand j'étais seul, j'ai médité, j'ai dit, c'est vrai. Je crois que livre par livre, c'est mieux. Pourquoi ? Quand c'est le même livre, le même sujet, tu es concentré. Concentré dans cette chose pendant des mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'à terminer cette chose, tu l'as bien maintenant, bien saisi cette chose. Mais quand c'est 3 cours différents dans la semaine. Aujourd'hui, le mal remède, demain c'est Thalathat Usul, et dans 2 jours c'est Sharh Sunnah. Je pense que, surtout pour les débutants, il y a des choses qui vont se mélanger. Il ne sait plus si cette chose-là, ça a un rapport avec telle chose ou tout autre. Ça se mélange chez lui. Mais je crois que la meilleure des choses, c'est terminer un livre et passer à un autre livre. Ou alors, à la rigueur, 2 livres par semaine. Mais pas 3. Ça facilite pour les révisions de faire un livre sans mélange. Voilà, sans que ça se mélange. Un mohim. Nous, Inch'Allah Ta'ala, on termine le livre, le mal et l'oise. Il reste, la fin c'est 329. On est à la page 213. Inch'Allah Ta'ala, à peu près 2 mois, bi'idhnillah Azza wa Jal, on l'aura terminé, Inch'Allah Ta'ala, maximum 3 mois. Al-Muhim, on revient, on dit. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit, le cœur est une ardoise vide. Et les pensées sont des burins. Vous connaissez le burin, c'est un grand clou avec lequel on frappe avec le marteau dessus pour faire un trou dans le mur. Il dit, alors, le cœur est une ardoise vide, marteau-piqueur. Marteau-piqueur, c'est avec l'électricité. Non. Il dit, le cœur est une ardoise vide et les pensées sont des burins avec lesquels on grave. Donc, yani, tu vas prendre une ardoise, là, plutôt ton cœur est vide, c'est comme une ardoise vide, tu n'as rien écrit dessus. Maintenant, ton cœur, tu vas le remplir avec quoi? Yani, avec des pensées. Tu vas graver dessus des pensées. Comment conviendrait-il à l'homme sensé de graver sur son ardoise, mensonge, tromperie, illusion, fausse espérance et mirage sans aucune réalité. Toi, quand je te donne une ardoise, si tu es un enfant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dessiner n'importe quoi. Il y a un arbre, un âne, n'importe quoi. Bon, tu es un enfant, tu es excusé. Maintenant, je te donne une ardoise, tu es quelqu'un d'âgé, de sensé, quelqu'un qui raisonne, je te dis écrit quelque chose. Hein? Tu vas écrire quelque chose de bien, ou l'inverse, c'est un hadith. ou là même quelque chose dans la dunya de bien. Là, un proverbe qui ne contradit pas la charia. Là. Et maintenant, si tu vas écrire seulement des mensonges sur ton adresse, des mensonges, des tromperies, des illusions, des fausses espérances, là, qui accepte cela? Quelle sagesse, science est guidée, gravée avec ses burins? Graver cela sur l'ardoise de son cœur est semblable au fait d'écrire la science bénéfique en un lieu rempli d'inscriptions sans aucune utilité. Naam. Donc toi, maintenant tu vas écrire un hadith, yani sur un mur, dans la rue. Le mur du bâtiment, tu vas écrire yani, un hadith, mais ce mur est déjà plein d'inscriptions. Des slogans, des blasphèmes, des gros mots, des n'importe quoi. Messi, Ronaldo, n'importe quoi. Enfin, et toi, tu vas écrire au milieu un hadith. Le hadith n'aura aucune valeur. Aucune valeur. Celui qui passe ne va même pas le remarquer. C'est très mauvais de le mettre là-bas, le hadith. C'est pas sa place. Il a dit, gravez cela sur l'ardoise de ton cœur. Et semble avoir fait décrire la science bénéfique en un lieu rempli d'inscription sans aucune utilité. Si on ne vide pas le cœur des pensées viles, on ne peut y établir les pensées bénéfiques, car elles ne peuvent s'établir qu'en un lieu vide. Naam. Si ce mur sur lequel tu as écrit le hadith, dans l'exemple que j'ai cité, si tu ne vas pas tout effacer, peindre d'abord, tu vas peindre d'abord le mur avec une couleur blanche, maintenant, très belle, ensuite tu prends une peinture noire, tu vas écrire le hadith. Là, masha'Allah, masha'Allah. Les gens vont le voir. Hein, il est clair, voilà. Peinture blanche, fond blanc, hadith en noir. Et il n'y a rien écrit avec lui. Rien écrit avec tout seul. Il dit ici, on ne peut y établir les pensées bénéfiques. Car elles ne peuvent s'établir qu'en un lieu vide. Si tu ne vides pas ton cœur, des mauvaises pensées, des pensées d'autrefois, des pensées de kofar, de la jahiliya, de ceci, cela, tu ne pourras pas faire rentrer dans ton cœur les bonnes pensées. Regarde seulement, quand quelqu'un veut rentrer en islam, qu'est-ce qu'il doit dire? La ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ensuite, ashhadu anna muhammadan rasulullah. D'abord je dis non, il n'y a rien, la ilaha. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. La ilaha illallah. Sauf Allah. Donc d'abord je dis qu'il n'y a pas, c'est-à-dire j'efface. J'efface tout ce que j'ai dans le cœur. Ensuite, après avoir fait la négation, je fais le seul qui mérite l'adoration. Il n'y a pas d'autre. Avant cela, j'ai dit il n'y a personne, il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Ensuite, j'ai dit il y a Allah. Donc j'ai vidé. Ensuite, j'ai dit il y a Allah. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans le Coran وَمَنْ يُكْفَرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ نعم وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Il a dit quiconque mécroit au Ta'ut, au Shaitan, ensuite croit en Allah, celui-là, yani, il aurait tenu l'anse solide. Mais d'abord, il faut mécroire au Ta'ut et ensuite croire en Allah. Donc, tu vides, ensuite tu remplis. Ce qu'on appelle aussi tahliya et tahliya. Tahliya, tu khalli, ensuite tu halli. Tu enlèves et tu pars. Non, pars du verbe parer. Tu enlèves d'abord les sages. Allahu alam. Peut-être que même, par exemple, pour une femme, par exemple, si elle veut se maquiller, par exemple, je dis pour son mari ou là, entre les femmes ou là, si elle a un visage, par exemple, sale, plein de je sais pas, de charbon, je ne sais quoi, ensuite elle va mettre du maquillage dessus, ça va rien donner. Elle doit d'abord enlever ce qu'elle a, ce qui gêne, ce qui est, par exemple, sale sur son visage, pour ensuite, yani, permettre de mettre une crème ou je ne sais quoi. Nul contraire en religion, car le bon chemin c'est distingué des gars. Donc quiconque mécroit aux rebelles, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus haute. Naam. Le man yukfar bit tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwati l'ukhra. Donc il faut d'abord mécroire, ensuite croire. Il dit ici, il dit, la passion pour elle est venue avant moi, est venue à moi, elle est venue à moi, avant que je connaisse les passions. Elle a donc trouvé un cœur vide et s'en est emparée. C'est un très beau vers de poésie. La passion pour elle, une femme, est venue à moi avant même que je ne connaisse les passions. Et elle a trouvé la passion. Elle a trouvé en moi un cœur vide et s'en est emparée. La passion envers une femme, par exemple, par rapport à un homme, si la passion vient, veut rentrer dans le cœur. Si elle trouve le cœur vide, elle va y pénétrer et s'installer. Mais si elle va trouver le cœur plein de crainte d'Allah, plein d'amour d'Allah, plein de peur de l'au-delà, elle n'aura pas de place. Elle n'aura pas de place pour la passion de haram. Non, il n'y aura pas de place pour la passion de haram. Mon cœur, je le laisse pour ce que Allah Ta'ala aime et ce qui est permis. Non, pas pour les choses qui sont haram, je les laisse dans mon cœur pour me salir mon cœur et me rendre mon cœur malade. Non, il dit, il en est de même pour nombre de maîtres soufis qui ont fondé leur soufisme sur la préservation de leur pensée, interdisant à toute pensée de pénétrer leur cœur afin que leur cœur soit vide et apte à y dévoiler et à y faire apparaître les réalités célestes. Comme ça, ils disent les soufis. Tu t'enfermes dans une chambre 40 jours, tu prends avec toi juste de quoi boire et manger, et tu vides ton cœur de toute pensée, et tu ne laisses aucune pensée rentrer dans ton cœur. Même Razali, rahimahullah, je crois qu'il l'a fait. Sahib Ihya Ulumuddin. Donc, tu essaies de vider ton cœur au maximum et de ne laisser aucune pensée rentrer. Si tu fais ainsi, c'est quoi le résultat? Les résultats vont apparaître à toi les réalités célestes. Le kishf. Yani, tu vas entendre des voix. Tu vas même peut-être voir des choses, des anges. Tu vas, yani, ils vont te parler. Tu vas voir le ciel, yani, s'entrouvrir. Et comme ça, tu vas découvrir des réalités célestes. Alors qu'en vérité, ce sont des réalités sataniques. Ils ont préservé une chose et en ont écarté d'autres. Ils ont empêché qu'une pensée vienne frapper à leur cœur qui est resté vide. Mais, il a dit ainsi, Satan, ils ont oublié ça, Satan l'a trouvé vide et y a semé le faux sous diverses formes, leur faisant croire qu'il s'agissait des choses les plus élevées et les plus nobles. Il a remplacé par cela les pensées qui sont la substance de la science et de la guider. Si le cœur est vide de ses pensées, Satan trouve un espace vide et l'occupe selon ce qui correspond à la condition de cet homme. Et puisqu'il ne peut l'occuper par les pensées les plus basses, alors il va l'occuper par la volonté de dépouillement, de la volonté sans laquelle l'homme ne peut à la réussite que si elle domine son cœur. Religieuse d'Allah Azzawajal, qu'il amétisme dans les pensées concernant ce bas monde et ses causes. Fait croire que leur perfection résidait dans le dépouillement et l'oisiveté. Mais, comme cela est bien loin, la perfection ne réside que dans le fait de remplir le cœur et l'âme de pensées, volontés et réflexions sur ce qui comporte la satisfaction du Seigneur, concernant le serviteur et les hommes, et la réflexion sur les moyens d'y parvenir. Voilà le résumé. Ibn al-Qayyim dit, c'est pas comme les soufis qui croient que tu dois tout faire sortir de ton cœur. Naam, tu fais tout sortir de ton cœur, d'accord. Mais si, par contre, tu veux le remplir de ce qui agrée Allah Azza wa Jal. Mais si maintenant, tu le laisses vide, qu'est-ce qui va se passer? Le shaitan va le remplir de sa aqida, lui. Shaitan a une aqida. Donc, il va te donner sa aqida et ses pensées. Mais si pas, tu veux vraiment, là, il faut vider ton cœur du mal et des mauvaises pensées et le remplir par les bonnes pensées et les belles. Le plus parfait des hommes, Je répète, et celui qui a le plus de pensée, réflexion et volonté en cela. De même que le plus imparfait des hommes est celui qui a le plus de pensée, réflexion et volonté concernant la réalisation de ses passions, où qu'elles soient. Qu'Allah nous vienne en aide. Qu'Allah nous vienne en aide. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala était submergé de pensée en ce qui comporte l'agrément du Seigneur. Même dans sa prière, il organisait ses troupes, voire Fath al-Bari, 390. Khattab était submergé de pensée en ce qui concerne ce qui comporte l'agrément du Seigneur, Azza wa Jal. Même dans sa prière, il organisait ses troupes, Al-Fath 390. C'est vrai, une fois, il les a guidés, il a guidé les croyants, Salat al-Maghrib. Trois unités, pendant les trois unités, il l'a lu à voix basse. Alors que la sunna, c'est de lire à voix haute les deux premières. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que lire à voix basse, ou le contraire. Lire à voix basse, là où il faut lire à voix haute. Ce n'est qu'une sunna. D'après Cheikh Ibn Uthaymeen, il n'y a pas de sujoud. Et certains ont dit qu'il y a le sujoud. Mais c'est juste une sunna. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. C'est pour ça que le vrai, inshallah ta'ala, c'est qu'il n'y a pas de sujoud. Al-Muhim. Donc, Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié trois unités à voix basse. Quand il a terminé, on lui a dit, tu as prié, trois unités à voix basse. Il a dit, c'est vrai. Il a dit, ah bon? Il a dit, mais, c'est pas étonnant. Il a dit, depuis que j'ai dit Allahu Akbar, en rentrant dans la prière, je n'ai cessé de, comme on dit, de classer, si je puis dire. Vous allez trouver le verbe, inshallah ta'ala. Il a dit de classer un soldat, en face de l'ennemi. Car il devait aller vers une bataille. Organisée. Depuis le début. J'étais en train d'organiser seulement. Toi, il y a Foulain à droite, toi à gauche, toi tu tires avec l'arc, toi tu tires avec ceci, cela. Il se parle à lui-même. Ensuite, il dit Allahu Akbar. Salam Allah li Muhammadin, comme ça, il se relève. Et comme ça, a disposé ses troupes. Il a dit depuis que j'ai dit Allahu Akbar jusqu'à la fin. Naam. Tayyib, je dis ici. Il a dit, Ibn Qayyim dit, ainsi, il a dit, Omar ibn Khattab était submergé de pensée en ce qui comporte l'agrément du Seigneur. Même dans sa prière, il organisait ses troupes, réunissant ainsi le djihad et la prière. Et c'est un moyen de faire entrer plusieurs adorations en une seule. C'est là une porte précieuse et noble que ne franchit que l'homme au cœur subtil, maîtrisant la science au plus haut point, si bien qu'il entre dans une adoration, c'est-à-dire ici salat, et qu'il jouit de plusieurs adorations, en ajoutant ici le djihad. Et c'est là la grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre dans les questions-réponses. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Tafadhal, inshallah ta'ala, pour la première question sur les 10 questions. Tafadhal.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا يا شيخ. Donc nous allons passer à la première question d'une sœur qui demande: nous avons vu que le pieux aura une bonne fin. Est-ce que le fait d'être éprouvé par une maladie en fin de vie, exemple cancer, amputation, etc., est un mauvais signe? بارك الله فيكم يا شيخ. تفضل وجزاك الله خيرا يا شيخ.
Naam, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc la question dit, nous avons vu que depuis il y aura une bonne fin. Est-ce que le fait d'être éprouvé par une maladie en fin de vie, quand on s'est rempli à ce sera, est un mauvais signe? D'abord, quand j'ai dit que le pieux aura une bonne fin, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala l'a dit. Et je peux même vous donner un verset qui prouve cela. Allah ta'ala dit dans le Coran, نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Ce verset dans sourate Baqara, une seconde, je vais le chercher ici, tout une seconde. Bon, je vais écrire نساؤكم حرث لكم, j'ai écrit حرث لكم, حرث لكم. Voilà, j'espère inshallah ta'ala que il va donner aussi, aussi en français. Allahu alam, on va voir. Copie, coller. Je le mets en français, c'est tout. Vos époux sont pour vos champs de labour. Allez à votre champ quand et quand vous le voulez. Et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Et faites gracieuse annonce, faites bonne annonce aux croyants. Remarquez avec moi le dernier verset. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Et faites bonne annonce aux croyants. Donc, c'est une preuve que celui qui craint Allah Azza wa Jal, qu'il le rencontrera ravi de lui. Car il a parlé de la crainte. Il a dit, craignez Allah. Ensuite, il a dit, vous allez mourir. Vous allez le rencontrer. Ensuite, il a dit, je vous annonce la bonne nouvelle. Quand il a voulu dire, toute personne qui craint Allah aura une bonne fin. Car elle va le rencontrer et on lui annonce la bonne nouvelle si elle est croyante. Donc ça, c'est le délit. Deuxièmement, si la personne meurt ou à la fin de la vie aura une amputation, un cancer, n'importe quoi, moi je dirais même que c'est le contraire, que c'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala aime cette personne et veut quoi? Et veut la purifier. Car des fois la personne demande à Allah ta'ala un haut statut. Elle demande par exemple d'être très proche du prophète alayhi salam yawm al-qiyamah, ou d'être avec les sahaba, d'être comme ça. Mais des fois, c'est un statut, yani, qu'on n'atteint pas avec nos petites œuvres, ce qu'on fait. Alors, Allah Ta'ala, des fois, donne une maladie, à la fin de la vie ou là, pour le faire monter, pour faire monter cette personne, yani, faire échelonner, yani, il monte dans les échelons, yani, jusqu'à ce qu'il ait un grand statut, un haut statut, ensuite il meurt ainsi. Ensuite. Le grand dalil de cela, c'est que Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala est mort avec quoi? Il est mort avec un cancer. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala est mort avec un cancer. Et beaucoup de savants, et la plupart, pour ne pas dire la plupart, sont morts avec des maladies. Naam. La maladie purifie. Et si la personne escompte la récompense, a aussi des récompenses. Celui qui est malade, non seulement il se purifie, mais il a encore des récompenses s'il sait, yani, et s'il escompte, yani, l'ajr عند Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, inshallah ta'ala, la réponse. Tfadl. Et d'ailleurs, il a dit, alayhi salatu wa sallam, dans le hadith authentique, quand Allah ta'ala aime un peuple, ou là une nation, ou là quelqu'un, il lui donne une épreuve. Il lui donne une épreuve. Donc c'est un délil de l'amour. Tfadl.
Jazakallahu khayran, ya Sheikh. Donc nous allons passer à la question numéro 2. Question numéro 2, question d'une sœur. Sallallahu alaykum fadilat al-shir. Ma question concerne une personne dont le cœur a été rempli de faux, de colère et de rancune. Cette personne a fait cette sa taouba, sachant qu'avant son repentir, elle vivait dans la jahiliya totale et les fausses croyances, et que malgré son repentir, il reste un ouest-ouest permanent et une aversion pour certaines personnes, causant une baisse de foi et une culpabilité de ressentir cela. Que doit-elle réformer et par quoi doit-elle commencer une fois qu'elle a fait son repentir, aqida, comportement, etc. Jazakallahu khayran wa ja'ala a'malakum fi mizani hasanatikum. Tfadal ya cheikh.
Laissez-moi le lire, inshallah ta'ala, tout seul, yani, sur cette question qui est assez longue. Une seconde. Le faux de colère, le son dans le corps était rempli de faux de colère et de rancune. Sachant qu'en moitié de vivant, il y a tout à des fausses croyances, moi j'ai son repenti, il a sa route, je suis maintenant. On laisse de ressentir cela. Que doit-elle reformer, par quoi doit-elle commencer, une fois qu'elle a fait son repentir, aqida, comportement externe. Non. Donc, la personne, toute personne qui fait le repentir, elle doit commencer, bien sûr, commencer par la aqida, connaître Allah subhanahu wa ta'ala et l'adorer. Mais, cela ne veut pas dire que, par exemple, elle doit négliger le comportement. Car, non, le comportement c'est quelque chose, la aqida c'est quelque chose. La aqida sont des choses que j'apprends, des choses que je fais rentrer dans mon cœur et je noue le cœur dessus. Pour ça, ça s'appelle aqida, du verbe en arabe aqada et aqodo. Il a lié, il a noué un nœud. Non, aqada. Donc, ça m'empêche pas que maintenant que je suis en train d'apprendre la aqida, et c'est avec elle que je commence, ça m'empêche pas, en même temps, en parallèle, d'avoir un bon comportement et de me réformer question de comportement, de m'éloigner des mauvaises habitudes et d'essayer d'avoir, yani, d'acquérir les bonnes habitudes. Non. Comme par exemple, si je dis que la personne doit commencer par aqida, ça ne veut pas dire aussi que je ne dois pas apprendre le fiqh parallèlement pour savoir comment prier. Si c'est Ramadan, pour savoir comment jeûner. Si c'est une femme, pour apprendre ce qui a rapport au monstru, pour savoir quand je peux prier, quand je peux pas. Si c'est bientôt le hajj, d'apprendre les règles du hajj, et comme ça. Même si je me base en grande quantité sur la aqida. Donc, cette personne, alhamdoulilah, qu'Allah ta'ala l'ait aidé, l'ait guidé, et maintenant elle dit, il me reste un ouest-ouest permanent, une aversion pour certaines personnes, le ouest-ouest il ne doit pas rester, car le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a dit que, taubatu, tahdamu maqablaha, il a dit la tauba, efface ce qui l'a précédé. Donc, tout ce que tu as fait comme folie, comme hérésie, comme bid'a, comme kufr, si tu as fait un repentir sincère, tout a été annulé bi'idhnillahi subhanahu wa azzawajal. Donc pour cela, il ne faut pas avoir de waswas. Reste qu'il y a aussi une aversion pour certaines personnes. Ces personnes-là, envers lesquelles j'ai de l'aversion, ça c'était yani, quand avant la tauba. Maintenant, je n'ai plus de problème avec les gens. Si j'ai fait des fautes, etc., je dois leur demander pardon. Parce que maintenant, quand la personne revient vers le haq, elle devient équitable. Autrefois, même si c'était elle la fautive, la personne ne veut pas reconnaître. Elle s'en fout, elle dit, c'est l'orgueil, c'est ceci, cela. Maintenant, la personne, quand elle fait la tauba, elle n'a plus le droit de tricher. Si elle sait que c'est elle qui est fautive, elle doit demander pardon. Si elle sait que c'est elle qui a volé des choses, elle doit les rendre, si elle les a toujours. Ou alors, aller se faire pardonner, donner l'équivalent. Et comme ça, c'est ça la vraie tauba. Maintenant, si je déteste toujours une personne à cause de son coffre, à cause de sa perversité, à cause de sa djihili, à cause, ça c'est normal. Ça c'est normal. J'aime pas les personnes qui sont comme ça. Je leur demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les guide comme il m'a guidé. Mais, quand elles font ces choses-là, je les déteste. Je déteste les choses. Pas les personnes, parce que les personnes, J'étais comme elle. Allah Ta'ala dit dans le Coran, كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ. Ainsi, vous étiez vous aussi. Donc, moi, il faut pas que j'oublie dans quel état j'étais. Et maintenant, il y en a, je suis contre tout le monde. Non, il faut pas oublier que moi aussi j'étais comme ça. Et moi j'aurais aimé que si quelqu'un était venu me donner des nasiha par exemple. Et comme ça. Non. Allah subhanahu wa ta'ala t'aide ya akhi ou la ya ukhti. Tfadl.
Amin, jazakallah wa khairan ya cheikh. Donc nous allons passer à la troisième question. Troisième question, question d'un frère qui demande. Ma mère est décédée alors qu'elle ne priait pas. Elle commettait certains péchés graves, comme le fait d'aller chez le devin, elle portait une main de Fatma, et elle tenait également des paroles ambiguës, comme lors d'une dispute durant laquelle elle a dit que Shaitan n'existe pas, ou elle a dit il est où Shaitan. Entre parenthèses, le frère dit mais je ne suis pas sûr, car je ne comprends pas bien le Darija. Donc il reprend et demande. Elle observait le Siyam et voulait faire le Hajj, mais le fait de vivre en France l'a perdu. Je voudrais donc savoir si je peux hériter d'elle, sachant que je suis endetté, si je peux demander pardon pour ma mère et si je peux faire le Hajj pour elle. Barakallahu fikoum ya cheikh, tafadhal. Wa jazakallahu khair.
Je voudrais dire une chose à cette personne. Non. Ou à cet enfant. Ou à son fils. Est-ce que sa mère, quand elle était vivante, elle se proclamait musulmane ou bien se désavouait du din? Est-ce que, dans son vivant, elle disait, moi je suis musulmane? Ah, la preuve, il dit ici, elle voulait aller au Hajj, elle voulait ceci, cela. Ça, ce sont, yani, de bons signes, comme on dit. Bons signes. Mais il y a des gens qui, dans leur vivant, ils disaient avant de mourir, moi je me désavoue de l'islam. Je ne suis pas musulman. Il n'y a pas Mohammed, je le déteste. Il n'y a pas de Coran. Si c'est comme ça, Audou Billah, c'est très grave. Mais si c'est la personne, croyez que l'islam suffisait en cela. Ça suffit que je jeûne. Je crois qu'il a dit elle jeûne, et je crois. Elle observait le siyam, voilà. Elle observait le siyam. L'âme, c'est déjà une preuve de la foi. Pourquoi celui-là, il jeûne? Pourquoi il jeûne s'il n'y a pas de siyam? S'il n'y a pas d'islam? S'il n'y a pas un peu de foi? Donc, je pense que Allah Ta'ala, c'est une jahila. Elle croyait que l'islam, ça suffit de jeûner, d'aller au Hajj, et peut-être un jour je vais commencer à prier, comme disent beaucoup de gens. Et voilà, et par rapport au shaitan, etc., je pense, Allah Ta'ala alam, que aussi c'est une jahila. Elle vivait en France, elle vivait dans un pays de kofar, elle vivait loin des savants, elle vivait sa famille, peut-être dans sa famille, il n'y avait pas de. On parlait pas de dîn, il n'y avait pas de savants, c'est les passions, la mode, ceci, cela. Allah Ta'ala lui pardonne et nous pardonne à nous tous. Naam. Je pense, Allah Ta'ala, elle a peut-être dit ça sous la colère. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Naam. Donc, quelqu'un maintenant, le résultat c'est quoi? Le résultat c'est que cette femme, Naam, est morte comment? Elle est morte sans prière. Quand quelqu'un meurt sans prière, Naam, on peut pas dire de lui comme ça qu'il est kafir, mais on dit, comme dit Ibn Taymiyyah, on dit de lui qu'il est kafir si le juge musulman l'avait interpellé et lui a dit, tu pries, ou bien on tranche ta tête. Et il dit, tu es moi et je ne prie pas. Il a dit, voilà une preuve flagrante qu'il est kafir. Car quelqu'un qui accepte de mourir et ne pas prier, c'est une preuve qu'il a une forte aqida dans le cœur qui est contre yani, la foi et la croyance. Comme quoi il n'y a rien dans l'au-delà. Je préfère mourir et ne pas prier. Toute personne qui a de la foi dans son cœur et ne priait pas auparavant, si le juge lui montre l'épée ou bien la guillotine et lui dit voilà, je te donne 5 minutes, si tu pries pas, je te coupe la tête ou bien tu passes à la guillotine. Toutes les personnes qui ont un peu de foi, ce jour-là vont commencer à prier et dire Alhamdulillah, au contraire, c'est une ni'ma. Même moi j'étais paresseux, maintenant je vais plus lâcher la salate. Mais si quand même tu peux dire tu es moi et je prie pas, alors c'est vraiment que cette personne est meurtre kafira. Vous comprenez? Donc comme dit Ibn Taymiyyah, tant qu'il n'y a pas le juge qui n'a pas établi la preuve sur elle, on ne peut pas dire de quelqu'un qui n'a pas prié qu'il est mort sur le coffre. Non, on laisse ça pour Yom al-Qiyamah. On laisse ça pour Yom al-Qiyamah. Wallahu ta'ala alam. Reste à savoir, il dit ici, si je peux le... Osma, comment dire? Il a dit ici, si je peux... Attendez la fin de la question. si je peux demander pardon pour ma mère, et si je peux faire le hajj pour elle, barakallahu fikum. Naam, s'il prend de l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, et de l'avis des quatre imams, qui disent que délaisser la salat par paresse, et non par mécréance, par paresse, s'il prend cet avis, qui disent que délaisser la salat par paresse ne fait pas sortir de l'islam, dans le cas, il peut l'hériter et yani, faire le hajj à sa place, bi'idhnillahi ta'ala. Surtout, si la personne sait que la personne voulait faire le hajj et avait l'intention. C'est pas comme la personne qui sait, par exemple, que son père, quand il était vivant, il a dit, moi, j'aime pas le hajj. Je déteste le hajj. Je ne crois pas au hajj. Celui-là, quand il meurt, ce n'est pas la peine d'aller yani, au hajj à sa place. Ça ne va pas être accepté bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfadlal.
Jazakallah wa khairin, Cheikh. Donc nous allons passer à la question numéro 4. Question numéro 4, question d'une sœur qui demande. Barakallahu fikoum, Cheikh, pour ce cours bénéfique. Comment favoriser les bonnes pensées et vider le cœur des mauvaises pensées quand le croyant vit dans un environnement qui n'est pas bon pour sa religion? Entre parenthèses, par exemple, vivre avec des personnes qui ne prient pas et qui critiquent la religion, où il y a la télévision, etc. Tfadlal, Cheikh, wa jazakallah wa khairin.
Mais ce qui m'a étonné, Mahmoud, ce qui m'a étonné, c'est la question à laquelle je viens de répondre maintenant un peu plus haut, celle de ma mère, etc., le hajj, etc. Maintenant, quand j'ai terminé, j'ai répondu, je me viens de remarquer que je pense que la question n'a rien à voir avec le cours. Non, le cours, c'était sur les pensées, etc. Et c'est quand j'ai entendu la quatrième question, quand il a dit comment favoriser les pensées, etc., les bonnes pensées, je me suis rappelé, j'ai dit c'est vrai, nous on parle de pensées, etc., pourquoi donc Fawzi yani, fait passer des questions yani, qui sont hors cours? Donc comment favoriser les bonnes pensées et vider le cœur des mauvaises pensées quand le croyant vit dans un environnement qui n'est pas bon pour sa religion, par exemple vivre avec des personnes qui ne prient pas, qui critiquent la religion, il y a la télévision, etc. Naam, favoriser les bonnes pensées et vider le cœur de mauvaises pensées, ça tu peux le faire même si tu es à je ne sais pas où, à Tel Aviv. Naam, parmi les juifs. Naam, et tu vis parmi les juifs, et toute ta famille c'est des juifs, qui lisent la Torah du matin au soir, et toi, naam, tu vois comment les éviter, comment rester seul dans sa chambre, comment méditer, comment lire le Coran, comment prier, comment, et comme ça. Et chacun doit trouver sa solution, il n'a pas d'excuse de dire je suis avec des parents qui sont comme ça, voilà. Bien sûr, tout cela, ça faiblit la foi. Mais ce n'est pas une preuve pour yani, tout abandonner. Ou dire, moi, je ne peux pas. Ou dire, moi, je ne peux pas. C'est ça le croyant. Il doit faire le djihad jusqu'à mourir. Le djihad de son nefs, le djihad yani, de son shaitan, le djihad de sa famille. La famille, le djihad, ce n'est pas en les tuant. Mais en parlant, en montrant les preuves, en des fois, il s'énerve, il ferme la porte, et comme ça. Jusqu'à ce que yani, Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala une solution. Et encore, les pensées, c'est quelque chose qui sont au niveau du cœur. Donc même assise, supposons qu'on m'enferme dans une pièce et qu'on me mette yani, de la musique. C'est-à-dire c'est plus fort que moi, je ne peux pas éteindre la musique. C'est encastré. Il n'y a ni bouton ni rien pour éteindre. Et qu'on me met en face la télé. Et qu'on me met un film sale en face de moi. Et malgré cela, c'est moi qui commande, ce n'est pas eux. Je commande mes yeux. Naam. Je les ferme. Je commande mes oreilles. Je mets mes deux doigts dans mes oreilles. Et je commence à dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, et comme ça. Naam. Jusqu'à ce que le film se termine et la musique ne cesse, et jusqu'à ce que je m'endorme. et je trouve une solution bi-idhnillahi ta'ala. Que chacun craigne Allah et l'adore, naam, yani il fait son possible pour l'adorer de la meilleure des façons. Et Allah ta'ala donne, yani des récompenses aussi. Et Allah ta'ala voit ce qui se passe, il voit les contraintes, il voit les difficultés. Et pour tout cela, il donne des récompenses en plus, bi-idhnillahi ta'ala. Tfadlal.
Jazakallah khairan, ya Cheikh. Nous allons passer à la question numéro 5. Donc la personne demande, vous avez dit que les gens ont pris la récitation du Coran comme sa mise en pratique. Mais n'est-ce pas une adoration de le lire sans comprendre le sens des versets? Tfadlal, ya Cheikh. Jazakallah khairan.
Vous avez dit que les gens ont pris la récitation du Coran comme sa mise en pratique. Mais n'est-ce pas une adoration de le lire sans comprendre le sens des versets? J'ai deux réponses. La première, ce n'est pas moi qui ai dit cela. C'est Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah. Donc moi, je n'ai fait que répéter ce qu'il a dit. La deuxième, je suis d'accord avec lui. Car si je n'étais pas d'accord, j'aurais fait une remarque. J'aurais dit ici, ceci, cela. Je suis d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas révélé le livre pour qu'on le lise, mais l'a révélé pour qu'on le lise, le médite et l'applique. C'est-à-dire la lecture, naam, ou la récitation ou là, c'est une, comment on dit voici là, naam, c'est le moyen pour yani, appliquer ce qu'il y a. Si tu ne lis pas, tu ne sais pas ce qu'il y a dans le Coran. Naam, tu ne l'as jamais lu, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, donc tu ne vas pas appliquer. Donc, lire le Coran est une adoration, mais n'est pas une fin en soi. Donc, tu lis, tu as des récompenses, mais si tu t'arrêtes là, tu t'es trompé. Il faut lire, donc avoir les récompenses, pour y aller, arriver à la finalité qui est quoi? Qui est pratiquer. Pratiquer ce que tu as lu et le mettre y aller, en pratique, bi-idhnillahi, subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, il n'y a pas de contradiction, incha'Allah ta'ala. Tfadlal.
Naam, jazakallahu khairan, cher. Nous allons passer à la question numéro 6. Question numéro 6, question d'une sœur qui demande, hayyakumullah, wa jazakallahu khairan, comment allier deux adorations à la fois lors de la prière tout en repoussant les waswas de shaitan, tel que l'a fait Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, barakallahu fikum, à vous ainsi que l'équipe. Wa fikum, barakallahu. Tfadlal, cher.
Maintenant, quand tu lis, tu as lu la question numéro 5 et numéro 6, je trouve qu'il y a des coupures. Donc maintenant, je dois lire ce que tu as écrit. Comment allier deux adorations à la fois lors de la prière, tout en repoussant les waswas de shaitan, tel que l'a fait Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala, barakallahu fikum. Naam. Ce qu'il faut savoir, c'est que Omar radiallahu ta'ala a joint dans la salat entre deux adorations. La prière est quoi? Et le djihad. Comment disposer, yani, son armée, bi-idhillahi subhanahu wa ta'ala. Il faudrait que les deux adorations, naam, soient du genre qui puissent se lier, s'allier, se mélanger. C'est pourquoi, par exemple, si quelqu'un va à la mosquée, quand il rentre, naam, et que yani, par exemple, il n'a pas prié la sunna du Fajr, Salat al-Fajr, dans laquelle on lit Qul ya ayyuha al-kafirun, et dans la deuxième unité, on lit Qul huwa Allahu ahad. Donc, il n'a pas encore fait cette prière. Il peut ne pas la faire. Afwan. Il n'a pas encore fait la prière de la mosquée, et en même temps, il n'a pas fait la sunna du Fajr. Il peut commencer directement par la sunna du Fajr. Pourquoi? Parce que la prière de la mosquée, c'est une prière qui peut rentrer dans n'importe quelle prière, car elle n'est pas demandée en elle-même. On ne peut pas s'asseoir dans la mosquée sans faire de prière. Mais maintenant, si j'ai fait la sunna, ou bien j'ai fait doha, ou bien j'ai fait istikhara, ou bien j'ai fait salat al-sobh, ou bien j'ai fait, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de prier salat, yani, sunnat, yani, la mosquée. Mais si ce sont deux adorations qui ne peuvent pas se mélanger, je ne peux pas. Exemple, il est 10h du matin, et le matin, quand j'ai été à la mosquée, je les ai trouvés en train de faire l'obligatoire, salat subh. Donc je n'ai pas fait la sunna du fajr. Et maintenant, je suis revenu à la maison, je suis endormi, je suis réveillé de nouveau, il est 10h du matin. Donc je n'ai pas encore fait quoi? Je n'ai pas encore fait la sunna du fajr. Et en même temps, j'ai l'habitude de prier Doha. Maintenant, est-ce que je vais dire, je vais prier Doha avec la niya que c'est en même temps la sunna du matin que je rattrape. Ou l'inverse. Je vais prier la sunna en mettant dans l'intention que c'est en même temps deux prières de Doha. Ça ne marche pas. Pourquoi? Car Doha, une prière, yani, spéciale, nam, et l'autre, c'est une prière spéciale. Elles peuvent pas se mélanger. Ce n'est pas comme la prière de la mosquée et les autres prières. La prière de la mosquée peut se mélanger avec les autres. C'est un peu comme une femme qui n'a pas prié, enfin, qui n'a pas jeûné les dettes. Et elle attend que ça soit Ashura ou la, qu'est-ce qu'il y a, Ashura, et il y a l'autre, comment on appelle l'autre, avec, il y a autre chose avec, qui est comme Ashura, comment on l'appelle? Arafat, par exemple, Jazakallahu khair, Arafat, et elle va dire, je vais joindre entre les deux niyas, en même temps. Je vais dire ça, c'est pour mon rattrapage, c'est-à-dire mon, comment ça s'appelle? Dain, naam, c'est des dettes, et en même temps, ça tombe bien plus c'est Arafat. Dans ce cas, ça passe. Naam. Pourquoi? Parce que les deux peuvent rentrer, yani, et se lier entre eux. Donc, je dis, naam, pour revenir à la question ici, naam, si maintenant dans la salat, j'ai pensé, par exemple, au siyam, naam, j'ai pensé au hajj, parce que dans 2 jours, c'est le hajj. Maintenant, quand j'ai dit Allahu Akbar, j'ai commencé à penser au hajj. Safa, Marwa, kada, naam. Tout cela, c'est possible et ce n'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est maintenant, par exemple, dans la salat, je vais penser, par exemple, au manger. Je vais penser à mon travail. Je vais penser à la voiture qui est chez le mécanicien. Naam. Je vais penser à mon enfant, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui dans l'examen. Et comme ça. Ça marche pas. Car tu n'as pas joint entre deux adorations, et encore moins entre deux adorations qui s'allient. Wallah Azza wa Jal A'lam. Tfaddal.
Jazakallahu khairan, Cheikh. Nous allons passer à la question numéro 7. Question d'une sœur qui demande qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Il m'arrive d'avoir des mauvaises pensées sur des filles de ma famille et de mon entourage qui ne portent pas le hijab. S'épilent les sourcils, fréquentent les garçons, etc. Car je n'aime pas ce qu'elles font. Je ne leur manque pas de respect, mais il m'est difficile de penser à autre chose lorsque je suis en leur compagnie, parce que j'ai moi-même vécu cette situation, et pourtant je ne suis pas irréprochable dans ma pratique de la religion. Ai-je des péchés pour toutes ces pensées injustes?
Il m'arrive d'avoir de mauvaises pensées sur des filles de ma famille et mon entourage, qui ne portent pas le hijab, s'épilent les sourcils, fréquentent des garçons, etc. Car je n'aime pas ce qu'elles font. Non, ce que tu penses là d'elles, naam, c'est quelque chose de normal. Tu détestes ce qu'elles font. Tu détestes ce qu'elles font, et détester ce qu'une personne fait, il y a ça dans le verset, il y a ça dans le hadith. Dans le verset, comme Qawlu Ta'ala, regardez ce verset, une seconde, regardez ce verset. Inch'Allah, qui donne en français, je sais pas, une seconde. Inch'Allah. Donc dans ce verset, il a dit, Shu'ara 216. Si tu désobéissent, dis, qu'est-ce que tu dis? Moi, je désavoue ce que vous faites. Donc toi, en pensant ainsi de ces filles, ce n'est pas elles en fait que tu détestes. Tu détestes plutôt ce qu'elles font. Donc tu désavoues de ce qu'elles font. La preuve que ce n'est pas elles que tu détestes, c'est que ces filles-là, si tu vas entendre demain après-demain qu'elles ont mis le hijab, ne s'épilent plus les sourcils, ne fréquentent plus les garçons, personnes, tu vas les aimer. Et avoir d'eux, yani de belles pensées d'eux, ou la dead. Donc, ce qui est ici, l'obstacle, c'est quoi? C'est ce qu'elles font, et non pas elles-mêmes. Donc, ne pas accepter d'une personne ce qu'il fait, et yani, détester ce qu'il fait, comme ça, ça se fait. Et c'est comme ça justement qu'on doit être. C'est comme ça que doit être le musulman. Maintenant, si j'ai une bonne pensée de lui alors qu'il fait des choses qui sont pas bien, ça c'est pas normal. Je dois détester ce qu'il fait. Mais la personne elle-même, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la guider. Et je lui fais des doigts. Et je dis comme Allah ta'ala m'a guidé. Et je suis content, ou la contente qu'il m'ait guidé. Le hadith a dit, Naam, personne de vous ne deviendra croyant jusqu'à ce qu'il aime pour autrui ce qu'il aime pour lui, pour soi-même. Donc tu n'es pas croyant jusqu'à ce que tu aimes à l'autre ce que tu aimes pour toi. Et toi, Yanni, tu aimes maintenant être à sa place, tu n'aimes pas. Et quand tu étais à sa place, tu aurais aimé qu'on vienne te donner des enseignements, tu aurais aimé. Donc il faut aimer pour lui aussi la même chose. Bi-idhnillahi ta'ala. Naam.
Cher, vous aviez fini la réponse parce que vous ne m'avez pas dit tafadhal. Donc si vous avez fini, je vais passer à la question suivante, inshallah. Question suivante. Question numéro 8. Assalamu alaykum, ya cher. Celui qui fait tauba mais ne s'éloigne pas des causes qui pourraient la ramener au péché. Son repentir est-il accepté? Tafadhal, ya cher. Jazakallah khayran.
Celui qui fait tauba mais ne s'éloigne pas des causes qui pourraient le ramener au péché. Naam. Yani, s'il a fait tauba, il a été sincère. Allah Ta'ala accepte la tauba. Mais, parmi les conditions de la tauba, c'est qu'il faut ne pas faire la chose. Et même ne plus la faire à l'avenir. Ne pas la faire au moment où je fais tauba. Et avoir dans le cœur de ne plus la refaire à l'avenir. Mais il est possible que, à l'avenir, je me trompe et que je la refasse. Mais dans ce cas, je dois refaire tauba de nouveau. Refaire tauba de nouveau. Donc, si maintenant j'ai fait tauba, et que, en ce moment, je ne fais plus cette chose, mais que je suis en train de faire les causes qui peuvent ramener, j'ai des péchés pour les causes. La tauba, inshallah, elle est acceptée. Parce que je l'ai faite avec les conditions remplies. Mais puisque je suis toujours yani, proche des causes, j'aurai des péchés pour les causes. J'aurai des péchés pour les causes, car ils peuvent me faire tomber une autre fois. Naam. Tfadl.
Naam, je sais pas, là, cher, donc par rapport, cher, si vous ne m'entendez pas bien, je pense que ça doit être au niveau de votre connexion, puisque la Boutoura m'a dit que le son était nickel. Donc je vais passer à la question numéro 9. Question d'une sœur, est-il obligatoire de nous renseigner sur la personne morte, savoir si elle faisait la salat pour pouvoir aller à la salat janaza, pour pouvoir aller à la prière mortuaire. Tafadhal ya cheikh, wa jazakallahu khayran.
Naam, parce que la salat c'est vraiment quelque chose de très grave. Et quelqu'un qui ne priait pas, c'est pas quelque chose de facile là. Quelqu'un qui ne priait pas, c'est pas quelque chose de facile. Maintenant, si les gens prient sur lui, alors que celui qui est un savant, ou bien imam, ou bien un modèle dans sa ville, etc., ne prie pas, yani, pour lui cette salat, comme ça pour que les gens voient et disent que, yani, les savants, etc., n'ont pas prié sur lui, donc c'est quelque chose de grave, quelqu'un qui meurt sans la prière, quelque chose de grave. Maintenant, si on arrive dans une prière de yani, ce qu'on appelle janaza, se trouve dans là où il y a des gens et on va prier sur lui dans quelques instants. Donc là, je suis arrivé. Là. Alors, dernière minute, je sais pas s'il priait ou pas. Mais, je sais quoi? Je sais qu'il est musulman. Je sais qu'il est musulman. Naam. Là, je ne suis pas obligé de demander sur lui s'il priait ou pas. Je ne suis pas obligé de demander s'il priait ou pas. Et je peux, quand je fais la prière sur le mort, de dire, يا الله إن كان هذا يعني الميت هذا إن كان يعني يصلي ويعبدك كذا كذا فاغفر له وارحمه واهديه etc. يا الله si cette personne يعني parce que الله تعالى sait si cette personne priait et faisait يعني t'adorer etc. alors يعني يعني préserve-le du feu, rentre, fais-le rentrer au paradis, et comme ça, et comme ça. Mais j'ai mis comme condition, j'ai dit si, si. C'est pour ça que, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, il était très embarrassé par une chose. C'est quoi? Il a dit, parce qu'on s'entend, il a vécu pendant, yani, là où il y avait les Tatars, et les Tatars, Zama, ils se disaient musulmans alors que, yani vraiment, ils combattaient les musulmans. Donc, Ibn Taymiyyah vivait au temps des Tatars. Il les a même combattus. Et il a dit que plusieurs fois on nous ramène des janazas, des défunts, défunts pour prier sur eux. Et on ne sait pas s'ils sont morts musulmans ou kofar. Non, je ne sais pas si maintenant ce Tatar, yani, parce que apparemment beaucoup de prix, disons les musulmans, etc. Mais je ne sais pas si ce sont vraiment des musulmans ou pas. Là, j'ai été embarrassé, yani, par ce problème. Et jusqu'au jour où, une fois, dans le songe, dans le rêve, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, voilà, on nous ramène des gens, les Tatars, et je ne sais pas s'ils sont musulmans ou pas, j'ai des problèmes par rapport à, est-ce que je dois prier sur lui ou ne pas prier? Il a dit, alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a répondu, Ya Ahmed, al-Shart, Ya Ahmed, al-Shart. Oh Ahmed, parce que Ibn Taymiyyah, son prénom c'est Ahmed, et sa kunya Abu al-Abbas. Donc il lui a dit, Ya Ahmed, al-Shart, la condition, Ya Ahmed, la condition. Il a dit, alors j'ai compris que, il m'a dit de faire une condition, c'est-à-dire dans la prière de dire, Ya Allah, si cette personne est comme ça et comme ça et comme ça, alors donnez-lui ça, ça, ça et ça. Et si cette personne, ça veut dire, n'était pas comme ça, ne lui donnez pas. C'est-à-dire, si elle est comme ça, donc ma prière est valable sur elle, si cette personne est kafira, donc tout ce que j'ai dit ne va pas compter. Et le fait de demander comme ça des conditions, ça existe dans le Coran et dans la Sunna. Dans le Coran, comme dans Sourate An-Nur. Wal-Khamisata. Et dans une autre citation, Wal-Khamisata. An Ghadiballahu alayha. Dans une autre citation, Ghadaballahu alayha. Naam. In kanat min al-kadibin. Donc, In kanat min kadibin. Et la cinquième, que la malédiction soit sur elle, si, si, elle fait partie des menteuses. Et lui, s'il fait partie des menteurs. Donc il y a le si. Et aussi dans le hadith que vous connaissez tous, les trois personnes que Allah Ta'ala a éprouvées, ils sont devenus, yani, wahad avait une maladie de la peau, l'autre il était chauve, et l'autre, je sais pas ce qu'il avait, Al-Muhim, Allah Ta'ala, celui-là, il l'a rendu riche, l'autre, il lui a enlevé la maladie, l'autre, il lui a donné les cheveux. Et à la fin, les preuves, voilà, et à la fin, ils ont renié. Ils ont nié, ils ont dit, c'est pas vrai, on n'était pas comme ça. L'aveugle, voilà, l'aveugle. Alors ensuite, Allah Ta'ala leur a envoyé l'ange, l'ange. Et il lui a dit, n'étais-tu pas aveugle, etc. Et il a dit à l'autre, n'étais-tu pas chauve, il a dit à l'autre, n'étais-tu pas lépreux. Et les autres ont nié. Ensuite, l'ange, qu'est-ce qu'il a dit? Si, si tu es véridique, hein, ou alors si tu es menteur, qu'Allah, sayyarak Allah ila ma kunta alayh, qu'Allah te rende, yani, le défaut que tu avais. Il a dit ça à l'aveugle et aux lépreux et l'autre. Si, si tu étais menteur, tu es menteur, qu'Allah ta'ala, et ils sont redevenus comme ils étaient. Sauf, je crois, l'aveugle, qui n'avait pas menti, était véridique. Et vous connaissez tous l'histoire de Sa'd ibn Abi Waqqas. Quand quelqu'un l'a accusé, il a dit que il prie pas bien, il guide pas bien, il donne pas, il partage pas, il a le butin, il va pas aux batailles. Comme ça, devant tout le monde à la mosquée. Accusé comme ça devant tout le monde. Il s'est levé, il a dit, Ya Allah. Si, comme ça, si. Si cette personne s'est levée, riya'an wa sum'atan. Juste pour l'ostentation, et pour que, yani, son cas, yani, se propage et qu'il soit connu. Alors, donnez-lui ceci et cela. Il a cité entre autres que la pauvreté et les fitnas, qu'il allonge sa vie et qu'il meure dans, avant de mourir, il aura des fitnas. Mais il a dit si. Il a posé des conditions. Non. Et nous, quand on prie salat istikhara, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma in kana fi hadha al-amr. Allahumma in kana kada wa kada. اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم إنك تعلم وإن تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيوب اللهم إن كان هذا الأمر كذا وكذا تدي إن يا الله سي cette chose est bien pour moi dans cette vie etc يعني dans la moi si tu dis si donc tu as posé des conditions donc c'est permis je dis quand on a des doutes comme ça sur une chose de faire des doigts ou de prier sur la personne en mettant une condition. En mettant une condition, bi'idhnillahi ta'ala. Même dans le hadith de la grotte. Non, dans le hadith de la grotte. Qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith de la grotte? Tu peux me rappeler? Qu'est-ce qu'il a dit? Eh, non, je connais le hadith, mais qu'est-ce qu'il a dit? Où il y a si? Où il y a la condition? Où il y a la condition? Je ne me rappelle pas qu'il y a une condition. Allahu a'lam. Ah, ça. Ça, avec sa cousine, celui qui, yani, il a eu le problème avec sa cousine et que il n'a pas voulu, alhamdoulilah, faire la zina avec elle et il lui a rendu son argent, son or et a dit à Allah, si ce que j'ai fait ça, c'était pour ton visage, fais-nous une solution, bi'idhnillah ta'ala, et Allah leur a fait une solution, bi'idhnillah ta'ala, jazakallahu khair, naam, tfadhal.
Non, mais cher, en fait, le hadith par rapport à la grotte où les trois étaient coincés dedans, c'était pour déplacer la pierre. Donc, en fait, comme a mis le frère Habib, c'est si j'ai fait cela dans l'espoir de voir ton visage, sors-nous de notre prison. Le rocher se déplaça encore un peu. Donc, nous allons passer à la dernière, c'est-à-dire à la dixième question, qui est la dernière question. Qu'Allah vous protège, j'ai lu à voix haute lors, donc c'est question d'un frère. Qu'Allah vous protège, j'ai lu à voix haute lors de la Salat al-Asr. Je n'ai pas respecté la sunna, le fait de lire à voix basse pendant la salat al-asr. Est-ce que j'aurais un péché, Yachir? Barakallahu fikoum. Tfadal, Yachir. Jazakallahu khair.
Si toi-même, avant cela, le hadith de si j'ai fait cela dans l'espoir de voir ton visage, sors-nous de notre prison, c'est-à-dire de la grotte, je ne suis pas très sûr qu'il a dit cette phrase exactement, qu'elle a été traduite comme ça, dans l'espoir de voir ton visage. C'est plutôt, si j'ai fait ça, pour ton visage. C'est-à-dire, pour, yani, je l'ai fait sincèrement pour toi. Pour toi. Il n'y a pas, c'est-à-dire, citer le mot pour voir, comme ça, ton visage. Li'ara wajhak. Wallahu ta'ala alam. Reste que pour la question numéro 10, le frère lui-même reconnaît. Il dit, je n'ai pas respecté la sunna. Or, la sunna, c'est quoi? La sunna, c'est, si tu l'as fait, pour le visage d'Allah, tu as des récompenses. Et si tu la délaisses, même sans cause, tu n'as pas de péché. C'est ça la sunna. La différence entre le wajib et le mustahab. C'est quoi la différence entre le wajib et le mustahab? Le wajib, c'est khitab Allah ta'ala al-muta'allaq bi'af'al al-mukallafin ala jihat al-fi'li fi'lan laziman. Alors que la sunna, khitab Allah ta'ala, muta'allaq bi'af'al al-mukallafin ala jihat al-fi'li fi'lan ghayra jazim. Donc, l'obligation. Et d'un autre côté, le wajib, quand tu le délaisses, tu as des péchés, tu le délaisses sans excuse, et quand tu le fais pour le visage d'Allah, tu as des récompenses. Et la sunna, quand tu l'as fait pour le visage d'Allah, tu as des récompenses, quand tu la délaisses, même sans excuse, tu n'as pas de péché. Donc, j'espère, inshallah ta'ala, avoir répondu à la question. Et toi-même, inshallah ta'ala, si tu fais la différence entre la sunna et le wajib, tu as la réponse, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Attendez, اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا نحن فيه من هذه الصخرة. نعم pour le hadith exactement il est dit exactement dans le hadith, on vient de m'envoyer ça par Viber. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك, si j'ai fait cela, نعم ابتغاء وجهك يعني pour ton visage, pour l'obtention de ton visage, c'est-à-dire sincèrement pour toi, pas pour un autre. Pas pour un autre. Il a dit, ça déplace la khor, etc. Ça vient de Abu Abdul Bar, jazakallahu khairan. Voilà, inshallah ta'ala, pour yani, le cours d'aujourd'hui. Tfadal.
Assalamu alaikum. Est-ce que vous m'entendez, Cheikh? Alhamdulillah. Cheikh, en fait, je voulais revenir à la première question que je vous ai affichée ici, sur le salon. À cette réponse, vous avez dit yani, que toute personne qui meurt d'une maladie, au contraire, c'est un bon signe. C'est un bon signe si je me souviens. Est-ce que ce ne serait pas plutôt au cas par cas et ce n'est pas en général? Parce que par là, on comprendrait que toute personne qui meurt d'une grande maladie a une bonne fin. Voilà que Allah vous fait comme cher si vous pouvez préciser, Inch'Allah.
Naam, je dis et je confirme. Toute personne pieuse, qui meurt éprouvée d'une maladie, naam, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Toute personne pieuse. Mais ce n'est pas perverse. Ce n'est pas celui qui meurt avec une bouteille de vin dans sa main. Ni celui qui ne prie pas. Ni celui qui faisait l'homosexualité. Toute personne pieuse qui est, masha'Allah, connue, c'est une personne pieuse. Les gens attestent de cela déjà. Dans le quartier, elle est connue là, comme quoi c'est une personne pieuse. Et malgré cela, yani, elle meurt avec une maladie. Inch'Allah ta'ala, c'est une bonne fin pour elle. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, est mort malade et aussi empoisonné, les deux. La maladie est venue du poison de la juive, l'âme qui l'a empoisonné. Que Allah Ta'ala lui donne ce qu'elle mérite. Allah Ta'ala lui donne ce qu'elle mérite. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'elle mérite comme mauvaise rétribution. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Avez-vous autre chose, Inch'Allah Ta'ala? Tfadlal, prends le micro s'il y a quelque chose, sinon je termine. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans l'espoir de se rencontrer lundi, Inch'Allah Ta'ala.